Michel Guérit, vous êtes lanceur d'alerte. Bonjour. On va parler aujourd'hui du projet de Laverie nucléaire Unitech en Champagne. Alors, on va
En
rappeler.
Champagne, oui, en Champagne. En Champagne, c'est amusant parce que la Champagne, c'est quand même 300 millions de bouteilles par an, hein, c'est quelque chose. Et qu'un projet nucléaire se construise, s'imagine en Champagne, moi déjà avant de démarrer, je suis sur les dents, quoi. Bon. Alors, c'est un projet évidemment complètement débile. C'est une laverie de linge nucléaire. Ah bon, alors les gens ne savent pas que les travailleurs du nucléaire, ben, quand ils travaillent, après il faut qu'ils changent leurs habits. Hein, c'est des habits contaminés. Bon, donc ils peuvent pas leur emmener chez leur, j'allais dire chez leur bonne femme pour le mettre dans la machine à laver, quoi. Qu'on ait déjà vu ça ailleurs. Alors non seulement le linge là va venir se faire laver à Joinville, et en plus de ce projet, il est associé à un ensemble, on ne sait pas trop, les bâtiments, pour décontaminer du matériel, de l'outillage, des échafaudages, enfin tout ça. Bon. Alors évidemment, une laverie, ben, y a des rejets. Hein. Les rejets vont aller dans la Marne, la rivière Marne qui est juste à côté. Qu'est-ce qu'ils vont rejeter dans la Marne? Ils vont rejeter ce que j'appelle moi du jus de machine à laver, hein, comme le jus qui sort de votre lessive quand vous faites la lessive. Déjà, c'est plein de produits chimiques, et puis en plus, il va y avoir donc les radionucléides, parce que le linge, il est contaminé. Sur Internet, on trouve beaucoup d'informations. Il y a notamment du cobalt 60, hein, qui est rejeté en quantité importante, et c'est le cobalt est un produit extrêmement cancérigène. Alors, ce qui est plus drôle encore, c'est que la Marne, quand on suit l'actualité, en ce moment, en été, elle est complètement à sec, hein, c'est un filet d'eau. À Joinville, je peux vous assurer qu'on peut traverser la Marne aujourd'hui avec des bottes, hein, tout bêtement. Hein, bon. Et puis l'hiver au printemps, à la saison des pluies, ben elle déborde. Ça veut dire que les radionucléides qui seront pas encore bien mélangés dans l'eau de la Marne, ben vont se retrouver dans les rues de Joinville. Alors, en plus, il y a le changement climatique, hein, qui est évident. On peut pas le nier. Et là, on a vu pendant tous ces derniers mois des quantités d'articles dans les journaux pour expliquer qu'il y a un vrai problème. On est en hyper sécheresse, on est en manque d'eau. L'Aube, la Marne, la Meuse, enfin tous ces départements-là, ils sont en vigilance orange. Les préfectures interdisent quantité de choses. On peut plus remplir les piscines, on peut plus laver les voitures. Enfin bref, il y a un énorme problème. Voilà. Et puis on a même vu dans quelques endroits si peu d'eau qu'on voit les poissons qui flottent sur le vent, quoi. Il y a pas assez d'eau pour la vie. On a vu des écrevisses essayer de se sauver. Enfin bon, c'est effrayant. Voilà. Alors pour revenir à l'explication de cette histoire de laverie, il faut savoir que jusqu'à présent, chaque centrale, hein, il y en a 19 en France, lave son linge. Hein, ils ont leur laverie. Et comme ils se sont rendus compte que les rejets des laveries, qui sont donc pas négligeables, rentraient dans le calcul des rejets, ils se sont dit, si on les fait laver à l'extérieur, eh ben ça va diminuer nos rejets. C'est pas idiot. Bon, puis en plus, ça permet aussi d'alléger les salariés, réduire... Ils sous-traitent, hein. Et quand ils envoient le linge à laver à l'extérieur, évidemment, le linge, il est considéré comme du linge normal. De ce temps, il ne déclare pas les quantités de radionucléides. Voilà. Puis en plus, au niveau de la sécurité, il faut savoir qu'une laverie, c'est dangereux. Il y a un risque d'incendie. J'ai lu dans les gazettes le 15 mai 2019, il y avait eu un incendie à la centrale de Fessenheim, c'est celle qui, par ailleurs, on est en train de fermer. Le linge à laver, c'est quand même énorme, parce que ça se compte en tonnes, hein, en tonnes par an, parce que les travailleurs sont obligés de changer de fringue après chaque opération.
Alors, wow.
Ah oui, on a même la liste des des vêtements, on se rend pas compte, mais notamment les polos, hein, le linge du haut auprès du corps, hein, disons un polo, c'est le truc qui représente le plus gros tonnage. Hein, parce que vraiment, à chaque fois qu'il va en zone décontaminée, il passe à la douche, à poil, hein, vraiment à la douche, et tout le linge, il est envoyé au nettoyeur. Bon, on va faire vite, mais enfin, au niveau historique, en 2012, il y a eu un problème parce que Areva s'est rendu compte que pas mal de blanchisseries n'étaient pas aux normes. Donc, ça coûtait tellement de fric qu'ils ont décidé d'aller sous-traiter. Hein. C'est aussi une des raisons. Bon. Alors, la nouvelle blanchisserie devait aller à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Après, c'est allé aux Pays-Bas. Et puis, c'est en 2015 qu'ils ont décidé de l'envoyer donc à Joinville, en Champagne. Parce que c'était une idée, le fameux accompagnement hein, économique du projet CIGEO, hein, le projet CIGEO à Bure, qui est à, c'est tout près, hein, c'est à 24-25 km de Joinville. Donc c'est, ne râlez pas, on vous amène des emplois, quoi. Enfin, le nucléaire crée des emplois. Alors tu penses 40 emplois, on a compté et, au niveau de l'image, au niveau des risques, il est évident que ça va détruire une quantité d'emplois. Et on l'a encore vu hier avec notre secrétaire d'État, Bérangère Rabat, qui est venu inaugurer, regarder un peu ce qui se passait au lac du Der. Elle qui s'intéresse à la biodiversité, il faut savoir que là-bas, il y a plus de 300 oiseaux qui, au lieu d'aller migrer à cause du changement climatique, ils décident de rester là parce que finalement, quand la météo est bonne, ils sont bien. Et puis, ils ont de quoi casser la croûte, ils vont manger dans les champs les graines que les paysans sèment, etc. Au lieu de créer 40 emplois, on calcule que ce serait 840 qui seraient supprimés, parce que les touristes, notamment, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent faire du bateau au lac du Der, ils ont même créé un casino, hein, c'est quand même une grosse activité, il y a des campings et tout. Enfin, sur le plan touristique, il est clair que ça va être une catastrophe. Alors, c'est la communauté de communes du bassin de Joinville qui a décidé d'accepter ça. On s'est resté extrêmement silencieux. Comme tous les projets nucléaires, hein, on n'en parle pas. Ça se fait en douce, dans des réunions de communauté de communes où le public est interdit. Ça se passe à huis clos. Et on a entendu parler de ce projet qu'en 2017. Hein. Alors que depuis 2012, ça courait dans les chaumières. Alors, on a immédiatement réagi, hein, les associations bougeaient. Ça a beaucoup circulé sur Facebook, on a fait des tracts, il y a eu des affiches, il y a eu des articles, il y a eu des réunions, il y a eu des manifestations plus ou moins importantes. On a même eu un entretien, hein, on a créé un collectif de cette association locale. Et puis, on est allé demander un entretien à Madame la préfète et qui nous l'a accordé. Et c'était très drôle, mais enfin bon, c'était vraiment de la langue de bois. Ensuite, on a eu une enquête publique. Et puis l'enquête publique, d'ailleurs, j'ai beaucoup participé. J'ai essayé de faire circuler des raisons pour dire non, que les gens n'avaient plus qu'à recopier, enfin pour encourager les gens à être plus précis, faire croire qu'ils avaient bien étudié le dossier. Plutôt que de dire simplement « je suis contre ». Alors c'est quand même bien de dire pourquoi. Et la commission d'enquête, malgré que tout était négatif, la commission d'enquête, bien évidemment, a donné un avis favorable. Bon, un avis favorable avec des réserves, hein, mais c'est quand même un avis favorable. Bon. Ensuite, la préfète, évidemment, a donné elle aussi un avis favorable. Donc, le projet est sur les rails, hein, il n'y a plus qu'à le fabriquer. Et d'ailleurs, ils commencent déjà, il y a quelques travaux qui se font sur le site prévu. Voilà, bon, moi je suis convaincu que cette décision ne pouvait être que favorable, c'est un projet nucléaire, c'est absolument pas la préfète locale qui décide de ça, c'est du ressort de la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, hein, la fameuse DGEC, qui est une émanation du ministère de l'Écologie, hein, donc c'est... D'après ce qu'on sait, il faut 2 ans. Une laverie, c'est pas si compliqué que ça. Hein. En deux ans, ils construisent. Hein, les plans sont prêts. La seule complication, c'est qu'il faut faire des systèmes de ventilation nucléaire, c'est-à-dire que l'air qui est brassé, qui est respiré et qui est utilisé pour les différentes phases techniques, hein, comme dans une laverie où vous allez porter votre linge, l'air sort, mais à travers des filtres. Hein, il faut quand même respecter au maximum les normes. Voilà, donc en deux ans, c'est prêt. Puis alors, au niveau de l'eau, il y a également, bon, il y a des bassins d'orage, des bassins de rétention, il y a ce qu'il faut pour filtrer. Mais bien évidemment, si on regarde clairement les dossiers, on se rend compte qu'en fait, ils avouent carrément que près de 40% des radionuclides ne peuvent pas être retenus. Hein, bon, notamment avec, et puis c'est pareil avec les cheminées, les filtres, les fameux filtres THE, très haute efficacité, arrêtent certains radionucléides, mais pas tous, ils n'arrêtent pas les aérosols, ils n'arrêtent pas le tritium, l'iode, etc. On n'avait plus qu'une solution après la décision de la préfète, bon ben c'est un recours, donc c'est le juridique, hein, pour essayer de casser ce truc. C'est compliqué, ils ont essayé avec un avocat du réseau sortir du nucléaire, puis pour l'instant ça se passe pas bien, on n'a encore pas réussi. Par contre, d'ailleurs je me suis beaucoup bagarré pour que ce soit Corinne Lepage qui soit impliquée dans cette affaire, normalement on devrait une action juridique avec Corinne Lepage, bon c'est du costaud, hein, Madame Lepage, je la connais bien par ailleurs. Maintenant, bon, c'est un dossier nucléaire, ils sont capables de l'envoyer sur les routes. Bon, maintenant, après, il y a tous les recours juridiques au niveau européen, etc. Enfin bon, c'est extrêmement complexe. Bon, en plus, moi, je suis pas du tout quelqu'un aguerri au juridique, mais moi, je fais confiance. Bon, dans la mesure où on a les moyens de la payer, parce que les appels aux dons, puis là, j'en profite, hein, si parmi les auditeurs, il y a des gens qui sont vraiment anti-nucléaires, n'hésitez pas, vous trouverez sur Internet toutes les informations et c'est vraiment pas compliqué.
On peut vous suivre aussi sur YouTube.
Bien sûr, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, si vous tapez Unitec, même sans mettre le simple mot Unitec, vous verrez la presse quand même nationale s'y intéresse. Mais bon, ça reste quand même un événement local. Hein. C'est important de lutter. Il y a pas de petits chantiers. Hein. Quand on est anti-nucléaire, il faut suivre tout ce qui se passe. Il y a pas que l'EPR. Hein. L'EPR, évidemment, c'est monstrueux. CIGEO, c'est encore pire. CIGEO, si ça se fait, c'est un crime contre l'humanité. On n'a pas le droit de fabriquer CIGEO. On ne sait pas ce que ça va faire. Bon, là, une laverie. On sait qu'il y a des rejets et on sait que ça va faire quelques dégâts. Hein, voilà. Si vous regardez d'ailleurs les vidéos qui ont été tournées hier par France 3 sur la visite de Madame Abba là-bas, en Thiérandère, vous verrez la grande banderole que j'ai inventée il y a déjà 15 ans. C'est non, la Champagne n'est pas la poubelle nucléaire de la France, parce qu'il est vrai que c'est curieux, pourquoi ont-ils ciblé l'Aube qui a... Moi, j'habite là à 5 km de deux poubelles, hein, et c'est relativement important au niveau de l'impact sanitaire. Et on attend deux supplémentaires, et la décision va être prise avant la fin de l'année. Bon. Donc, on est presque tout seul, hein, parce que je ne suis absolument pas soutenu par les médias. Hein, c'est l'ANDRA qui est donc le gestionnaire de ces poubelles. A le pouvoir d'arroser, d'acheter les consciences, comme on dit, hein. Et donc tous les élus et même les habitants disent c'est pas dangereux, il y a pas de problème, on peut leur faire confiance. Si c'était dangereux, ils nous le diraient. Enfin, j'entends des trucs absolument aberrants. Résultat, on a des millions de mètres cubes de cochonneries qui sont là, installées dans des alvéoles. Et ce sont des alvéoles qui, bien évidemment, fuient. Et puis, en plus, il y a des rejets autorisés. Le problème, c'est que quand je regarde, moi, le nombre de cancers, le nombre de leucémies, là, je travaille actuellement sur des hyperparathyroïdies. On en reparlera un jour parce que là, je suis en train de construire l'association des malades d'hyperthyroïdie en France où je pense qu'on va arriver à démontrer qu'il y a un problème autour de cela. Voilà. Donc, la champagne est ciblée. Enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi pourquoi c'est la champagne. Enfin, c'est rien que le mot champagne. Moi, c'est audacieux. Enfin, bref, les champenois sont un peu des moutons et se sont laissés acheter et on a des quantités d'activité nucléaire qui fleurissent maintenant dans la Meuse, la Haute-Marne et l'Aube. Ce qu'on s'était amusé, nous, à appeler les métastases nucléaires. Au niveau impact, il est évident que ça va flinguer l'image de la région. Hein. C'est évident qu'au niveau tourisme, ça va être une catastrophe.
Et de plus, la santé des habitants déjà fragilisés.
Oui, et puis, la santé, je vais pas m'étendre là-dessus, on y reviendra, parce que je vous assure que cette histoire d'hyperparathyroïdie est un énorme problème. On a un coefficient 20, hein. C'est une véritable épidémie. Hein. Il y a 20 fois trop d'hyperparathyroïdie autour de soleil, mais je pense que c'est avec ça que je vais arriver à faire bouger le monde. Mais après, il y a 1000 problèmes, on pourrait citer de la non-indépendance des organismes officiels comme l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé. On pourrait citer Santé publique France. Enfin, je me rends compte, moi, qui fais partie de tous ces organismes, qui participent à des réunions et on a des échanges de mails dans des échanges de groupes, je me rends compte que ces gens-là, même l'IRSN qui intervient, ne sont pas indépendants. Il y a cette idée de dire... On peut pas dire trop de mal de tous ces projets-là dans l'Aube parce que on sait pas quoi faire des déchets nucléaires et on a trouvé une solution, hein, on a trouvé une solution dans l'Aube, hein, puisqu'on fait pas la révolution. Il faut absolument que les déchets nucléaires viennent là, hein, et ils ne viennent que là, hein. La totalité des déchets nucléaires fabriqués en France viennent dans l'Aube, hein. Et puis là, les méchants, ils vont aller à Bure, c'est à 40 minutes, hein, c'est à côté. Voilà, alors après, on pourrait parler en revenant à ce projet de Lavery, on pourrait parler des études faites par les hydrogéologues indépendants, il y a des choses aberrantes, on sait que ça va contaminer l'eau des captages, enfin bref, il y a 1000 choses qui font qu'il faut absolument empêcher ce truc-là. Voilà.
Et comment vous soutenir, Michel?
C'est d'abord s'informer. Moi, je dis toujours, faut s'informer. Hurler pour le principe d'hurler, c'est déjà bien, mais essayez de lire. Vous allez trouver sur Internet quantité d'infos. Moi, j'ai un site qui s'appelle villesurterre.com. Hein, facile, ville sur terre, comme une ville sur la terre, villesurterre.com, vous allez trouver sur la page d'accueil une vignette Unitech, vous cliquez, vous allez avoir l'historique de tout ce qui s'est passé, les coupures de journaux, vous allez comprendre comment est fait ce dossier, comment il évolue, et comment on va nous l'enfiler, quoi. C'est effrayant. Et là, on se dit, ben, rien que le processus, hein, déjà complètement antidémocratique, fait qu'on peut être contre. Bon, après, vous lirez les détails techniques, les dossiers de nos experts. Je pense à Bertrand Tulier, qui est un scientifique, un local qui a du courage, qui a du talent et qui prend le temps. Hein, parce que vous savez, les dossiers, c'est comme pour Cigéo, ça se compte en milliers de pages. Hein. Et là, le dossier que Bertrand a étudié pour Unitech, c'est 1600 pages. Donc, c'est aussi une façon, si vous voulez, de noyer le citoyen. Bon, si vous voulez prendre une décision et nous aider sur Unitech et qu'il faut que vous tapiez 1600 pages, vous ne lisez pas 1600 pages même pendant les vacances d'été à la plage. Bon. Donc, il faut aller lire les résumés, il faut aller voir les condensés, il faut aller voir les petites vidéos qui ont été réalisées, etc. Mais vous pouvez nous aider, ça c'est clair. Après, on a fait des appels. Rien qu'un soutien déjà en envoyant un mail, c'est bien. Relayer aussi, là je m'adresse au réseau. Relayer sur les réseaux Facebook, ça marche bien. Hein, ça va très 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 vite. Et puis après, au niveau financier, avez sur Internet tous les moyens d'envoyer des sous. Et même 3 sous, c'est bien, hein, parce que il n'y a pas que les dons des fondations en milliers d'euros qui sont toujours intéressants, mais même vous envoyez 5 euros, ben c'est bien. Voilà, si on est nombreux à envoyer 5 euros, croyez-moi, ça fait beaucoup d'argent. Et on peut, parce que des frais d'avocat, bien évidemment, ne sont pas gratuits.
Eh ben merci beaucoup, Michel.
Et puis c'est moi qui remercie votre radio. Et vraiment, moi, je vous donne rendez-vous en septembre, je pense. On va travailler sur une enquête épidémiologique. C'est absolument pas normal qu'il y ait autour de Soulaine 20 fois trop d'hyperparathyroïdie. Et si c'est de la faute aux grenouilles et aux abeilles, ben on verra ce qu'on fait. J'ai comme l'impression que l'ANDRA y est pour quelque chose. Et encore une fois, si une INB, comme on dit, une installation nucléaire de base, ou n'importe quelle entité nucléaire rejette et fuit, et c'est normal, hein, on peut pas. La radioactivité, c'est quasiment impossible à confiner, hein, c'est le mot, hein, comme pour le coronavirus. Hein. On peut pas empêcher ces saloperies de sortir, donc elles sortent. Après, bon, il faut voir l'autorisation, il faut mesurer, et puis après, il faut voir si les normes sont correctes, parce que je me demande, moi, très sérieusement, avec des organismes aussi sérieux que la CRIRAD et la CRO, je me demande s'il ne faudrait pas revoir les normes. Et je prends comme exemple, on peut finir avec ça, un jour, quelqu'un a dit, à 90 km/h, il y a trop de morts, il y a trop de morts sur les routes, eh ben, on va passer à 80. C'est la même chose. Moi, je me dis, actuellement, les normes de rejet et de fuite, hein, le fameux 1 millisievert, à mon avis, il n'est pas bon. Et on pense, nous, qu'il faudrait le ramener au moins à 0,5. Voilà. Et de ça, on pourrait parler. Il y a encore un autre sujet. Voilà, bonnes vacances à vous et merci de votre écoute.
Merci beaucoup.